Présidentielle 2022 avec les prépas Sciences Po du lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan, troisième volet parmi les cinq rendez-vous programmés avec les représentants des candidats à la présidentielle des 10 et 24 avril prochains. Après Laurence Motoman pour Europe Écologie Les Verts, soutien de Yannick Jadot, Boris Vallot, porte-parole d'Anne Hidalgo, nous accueillons aujourd'hui Christian Delfosse, il est le coordonnateur pour les Landes du parti Reconquête, soutien à Éric Zemmour. Monsieur Delfosse, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous découvre, pour être honnête, est-ce que tout simplement vous présentez, âge, profession ?
Âge, bientôt 66 ans, dans quelques semaines, je suis à la retraite, j'ai eu un parcours, je suis ingénieur électricien, j'ai choisi un jour de vivre mes passions, ma moto, et puis j'ai changé, j'ai trouvé que le bâtiment pouvait m'intéresser aussi, et je suis parti dans le bâtiment, je me suis formé dans le bâtiment avec un architecte, et je me suis spécialisé dans les maisons basse consommation.
D'accord. Vous résidez où, du coup ?
Alors, dans un petit village de 300 âmes qui se situe entre Tartas et Rion-des-Landes, qui s'appelle Beilong.
Est-ce qu'on peut parler d'un passé militant, votre parcours politique ?
Alors, mon parcours politique est illégal à zéro. J'ai commencé la politique il y a le 29 août dernier, parce que j'avais rempli « J'agis pour Zemmour ». Et on est venu me chercher, Arnaud Imbert est venu, m'a appelé, on a discuté pendant une heure. Arnaud Imbert, qui est le responsable régional Reconquête Nouvelle-Aquitaine, et il m'a proposé de prendre les Landes en direction pour au départ les amis d'Éric Zemmour et la candidature d'Éric Zemmour après par la suite.
Qu'est-ce qui a fait que vous n'aviez pas été... vous n'étiez pas encarté avant, il y a eu une sensibilité politique.
Ma sensibilité politique, elle est quand même de droite. J'ai failli un jour m'encarter RPR, mais je suis resté un petit peu sur ma faim parce qu'on voyait toujours les mêmes têtes et très peu de gens de l'extérieur prendre une carte et puis rester comme ça, passif, ça ne m'intéressait pas beaucoup. J'aime bien, si je m'engage dans quelque chose, aller jusqu'au bout et le faire avec passion, comme j'ai fait ma carrière professionnelle. Et donc là, cette année, c'est au 29 août, j'ai dit pourquoi pas, j'étais plus disponible, donc allons-y.
Vous aurez l'occasion, donc, lors de cette émission, d'expliquer les raisons de votre engagement en faveur d'Éric Zemmour. Vous connaissez, donc, on vous a présenté le principe de l'émission. Donc, il y a 6 élèves de prépa Sciences Po qui vont se succéder face à vous pour vous interroger donc, sur le programme d'Éric Zemmour. Vous l'avez constaté de vous-même, sur ces 6 élèves, 5 jeunes femmes, largement majoritaires. Donc, on va évoquer la question, dans un premier temps, de la parité, plus largement, sur la place des femmes dans la société. Marthe Kahn, je vous laisse débuter.
Alors, ma première question, c'est Monsieur Zemmour dit vouloir interdire la PMA sans père. Pour quelle raison ?
Est-ce que vous avez déjà vu un enfant naître sans père et vivre sans père ?
Oui, personnellement, oui.
Oui, quand il y a un décès. Mais est-ce que moi, personnellement, en tant qu'homme, je pourrais avoir un enfant sans une femme ? Non.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que un enfant, il est issu de l'amour d'un homme et d'une femme, en principe. Et
techniquement.
Et techniquement, je vois mal un enfant vivre sans son père et sa mère. J'ai eu la malchance de perdre mon épouse, la mère de mes enfants, et le dernier, il avait 3 ans et demi. Et il faut être à la place des enfants pour comprendre un petit peu la douleur qu'on peut avoir quand on perd sa mère à 3 ans et demi. Et surtout quand on grandit, à 3 ans et demi, bon, on oublie un petit peu, on se rappelle à peine des petites choses. C'est là que, quand on grandit, on s'aperçoit qu'une mère, c'est quand même quelque chose, même si le père était présent. Et donc, je pense qu'aussi en sens inverse, un enfant qui n'a pas de référence paternelle, il se construit mal.
Dans votre propre histoire assez tragique, j'en conviens. Là, on en parle quand même plus largement de
oui, d'amour. Oui, mais, d'amour, mais enfin, mon positionnement, votre positionnement. Il vient de ce constat.
D'accord.
Je pense que l'être humain n'est pas un cheptel. Si on insémine des vaches, très bien, c'est parce qu'on a un but alimentaire, je dirais. Je pense que l'être humain n'est pas encore à ce niveau, il n'a pas à être à ce niveau.
Voilà. Je vous laisse cette comparaison. Autre question ?
Oui, toujours dans ce sujet de la PMA sans père, pourquoi deux femmes ne pourraient très bien pas être complémentaires dans l'éducation d'un enfant ?
C'est un ensemble, la société. La société, elle est faite de cellules familiales. Les cellules familiales, un enfant, encore une fois, ne peut être conçu qu'avec un père et une mère. Si on choisit d'être, quand on est adulte, d'avoir une orientation homosexuelle, on sait qu'on est stérile. Et qu'à partir de ce moment-là, on accepte sa propre orientation, c'est ma pensée, et on la vit. Alors, on pourrait dire, ben oui, mais l'enfant peut nous manquer. Les femmes, si elles ont envie d'avoir un enfant, il suffit simplement d'épouser, de se marier, d'avoir une vie normale. Il y a tellement d'enfants qui sont malheureux, qui sont tout seuls. Il faudrait mieux revoir un petit peu la société et la gestion des sociétés des enfants qui sont orphelins, des enfants français hein, qui vivent en France. Eh bien, je pense que ces couples-là, on devrait pouvoir leur donner facilement cette possibilité-là d'adopter des enfants français sans avoir besoin d'aller à l'étranger pour adopter des enfants.
Donc oui, à l'adoption, mais
oui,
avec des enfants
oui,
français.
Voilà. D'accord. Enfin, avec des enfants français, parce que c'est plus facile, ça, à mon sens, c'est plus facile que d'aller chercher des enfants au Vietnam ou dans un autre pays. Voilà, c'est dans cet esprit-là. Mais pour moi, dès l'instant qu'on choisit une orientation sexuelle, on sait que cette orientation sexuelle n'est pas...
On ne choisit pas son orientation sexuelle, si je puis me permettre.
Oui, alors là, on pourrait rentrer...
À mon avis.
On pourrait rentrer dans un vaste débat dans lequel j'éviterais. Si nous devenons, je ne sais pas quel mot en fait prendre, mais si on se retrouve homosexuel, eh bien on accepte cette condition, encore le mot me déplaît un petit peu, c'est un peu fort, mais on accepte l'état, c'est tout. Et on n'a pas à vouloir être ce que l'on ne peut pas être en fait.
Merci en tout cas Marthe pour ce premier dossier, on va ouvrir de suite un second chapitre sur un domaine dans lequel on va dire en tout cas vous êtes le plus exposé, celui de forcément l'éducation. Parlez Léna Piperno.
Éric Zemmour a pris position pour dire qu'il souhaitait que les enfants handicapés soient scolarisés dans des établissements spécialisés. Ensuite, il a amené un correctif en disant que seuls ceux n'étant pas en capacité d'être scolarisés en milieu ordinaire iront dans des établissements spécialisés. Il y a une loi qui est passée en 2005, qui a été votée à l'unanimité par les députés, qui prévoit que chaque enfant peut être scolarisé en milieu ordinaire dans l'école de son quartier et qu'il n'est scolarisé en établissement spécialisé que si les parents le demandent. Est-ce que Éric Zemmour compte revoir la loi de 2005 ?
Je suis content que vous me posiez cette question-là. Pourquoi ? J'ai eu un petit frère handicapé qui est mort à 42 ans de vieillesse. Son corps usé, il était sourd. Et j'ai mon garçon, 3 ans et demi, qui avait un problème de dyspraxie visio-spatiale. Entre les deux handicaps complètement différents. Un simple, celui de mon fils, l'autre beaucoup plus compliqué, celui de mon frère. Est-ce que vous pensez qu'un handicapé, un sourd, puisse participer à une classe avec des enfants qui entendent correctement?
Oui.
Qui s'expriment
j'ai
correctement.
J'ai un frère sourd. J'ai un frère sourd, monsieur Delfos, qui a été dans un collège.
Oui.
Certes, il était plus âgé, il avait 17 ans, les enfants avaient 13 ans. C'était,
voilà.
c'était très compliqué, je vous l'accorde.
Voilà,
c'est possible.
C'est très compliqué. Et en plus, alors pour prendre le cas de mon fils qui a une petite déficience, quand il y a des petites déficiences comme ça, il y a des AVS. Les AVS, elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas reconnues. Donc ça, il faudrait déjà revoir un petit peu ce positionnement. Quant au lourd handicap, je pense que, et pas les handicapés physiques, celui qui est sur une chaise roulante, comme on peut voir sur un si grand soleil, ceux-là, qu'ils participent après dans la vie et qu'on adapte un peu les établissements pour que recevoir ces personnes handicapées, il y a au contraire, il faudrait même l'améliorer pour certains établissements. Mais pour des lourds handicaps, des personnes qui sont trisomiques, c'est pas de leur faute à ces enfants-là. Ils ont besoin d'attention. Ces enfants-là, ils ont besoin d'amour. Ils n'ont pas besoin de moquerie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez jeune, on se moque. Les jeunes entre eux, les enfants, se moquent un petit peu de « Ah, bah l'autre, il est habillé comme si ». On a vite fait de faire avoir la moquerie. Et ces enfants handicapés, les trisomiques, c'est très difficile de les assimiler.
Ma question suivante, elle porte sur toutes les modifications que veut effectuer Éric Zemmour. Quant au fonctionnement de l'école, donc il veut la fin du collège unique, le retour des classes de niveau, instaurer le port de la blouse, le retour du latin, du grec, l'arrêt de l'apprentissage des langues étrangères en primaire, transformer les CPE en surveillants généraux et enfin le retour du certificat d'études. Le programme d'Éric Zemmour sonne un peu comme un retour en arrière. Pourquoi ?
Le niveau d'études du baccalauréat aujourd'hui, désolé de vous le dire, je ne vais pas mettre en cause vos professeurs, n'est pas du niveau qu'il serait souhaitable. Et je ne suis pas à le dire comme ça. C'est les études qui le démontrent aujourd'hui, c'est que globalement, le niveau des jeunes Français a diminué considérablement. Donc il faut trouver des solutions. Alors après, de mettre le latin, de mettre le grec en plus, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien de façon systématique? Moi, j'avais le latin quand j'étais en sixième, ça m'intéressait pas. Donc je vois pas pour... Bon, par contre, qu'on ait un peu de notions, ça permet de comprendre et d'apprendre certaines choses. Que je regrette peut-être aujourd'hui. Ça m'aurait permis, sur certains mots, sur certaines expressions, de, de peut-être mieux les comprendre ou en connaître un petit peu mieux l'origine. Mais tout ça, ça sera une affaire à mettre en place après. En tout état de cause, il faut revoir le niveau scolaire aujourd'hui.
Mais justement, en faisant des classes de niveau, vous n'avez pas peur que ça tire les élèves qui sont dans des classes dites de nul vers le bas et ceux qui sont dites de fort plutôt vers le haut?
Bref, on creuse un fossé.
Voilà.
On va prendre une comparaison un petit peu qui me vient à l'esprit. Vous prenez deux voitures, une voiture qui fait 100 chevaux puis une voiture qui fait 40 chevaux. Elles vont d'un point A à un point B. Celle qui fera 100 chevaux, elle arrivera première au point B. Mais l'autre, elle arrivera au point B aussi, plus doucement. Donc, on ne peut pas mettre tous les enfants dans le même panier. S'il y a des enfants qui ont des difficultés, il faut leur donner la chance d'avancer. Et ceux qui n'ont pas de difficultés, eh bien, qu'ils avancent. Mais certainement que les deux arriveront au même résultat.
Ma dernière question, elle porte sur l'affirmation d'Éric Zemmour selon lesquelles Philippe Pétain a sauvé des Juifs français. Dans les programmes scolaires actuels, les élèves apprennent que Pétain a collaboré avec l'occupant et a livré des Juifs à Hitler. Si Éric Zemmour est élu président, est-ce qu'il compte les modifier, ces programmes scolaires?
Dans toute la cause, je pense que les programmes scolaires, en histoire déjà, au moins, ou en géographie, je pense qu'il serait quand même nécessaire de les revoir.
Mais sur Pétain.
Quelle frange, vous pensez à quelle frange de l'histoire?
La frange de l'histoire, moi j'étais effaré, c'est que par rapport à l'histoire que j'avais appris, on parlait plus dans l'histoire du Coran, de l'islam et autres, c'était beaucoup plus présent que de notre histoire chrétienne. Je ferme la parenthèse.
Revenons à Pétain.
Voilà, je pourrais botter en touche ce qui m'a été conseillé, parce que quand on en parle entre nous en réunion...
Oui, mais si vous en parlez en réunion, ça veut dire que vous savez qu'on va...
Non,
c'est important
la réunion,
quand même.
Non, mais la réunion, c'est parce que quand on pose, si on vous pose la question, ouais. Que doit-on répondre?
Vous êtes bien conscient de...
Non.
Le
côté abrasif, c'est simplement certains journalistes qui ont mis ce côté abrasif en avant.
Historien.
Comment?
Historien, journaliste et des juifs aussi, tout simplement, les personnes concernées. Il n'y a pas besoin d'être juif pour être...
Non, on sort une phrase d'un contexte de tout un livre. J'ai lu et revu surtout l'émission dans laquelle ça avait clashé avec cette petite phrase. Je l'ai revu plusieurs fois.
Il l'a dit plusieurs fois.
Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui aime l'histoire, c'est quelqu'un qui analyse. Il a sorti son analyse. Pourquoi dire qu'après, il était un pro-Pétain alors que c'était une analyse?
Mais c'est quoi son analyse? Dites-moi son analyse.
Je ne peux pas m'exprimer, moi, d'abord parce que je ne suis pas historien. Donc, je n'ai pas revu tous les documents qu'Éric Zemmour a pu consulter.
Mais
moi,
j'ai lu
d'autres analyses d'autres historiens, d'autres écrivains, et qui avaient des conclusions identiques à celles d'Éric Zemmour.
Mais je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé que le gouvernement de Pétain et les Allemands nazis avaient négocié 40 000 juifs pour la rafle du Veldiv. La France en a livré 42 000. 2000 juifs d'écart,
oui, non, mais
c'est pas rien.
Voilà, mais encore une fois, on va rentrer sur
Vichy
des...
Vichy était zélé, même. On n'a rien demandé au départ à Pétain.
Oui, mais vous voulez refaire l'histoire que je n'ai pas vécue, que vous n'avez pas vécue, que nous analysons avec une vue extérieure. C'était une analyse qu'il a voulu, me semble-t-il, faire de la façon la plus objective possible, sans vouloir dire qu'il était pétiniste ou autre.
En retournant à ma question, est-ce qu'il compte modifier les programmes scolaires? Oui ou non?
Oui.
Et qui les fera? Des historiens, donc.
Enfin, on peut imaginer qu'il va quand même donner quelques
Oui, non, mais l'orientation qui sera donnée, c'est sûr que c'est au chef de l'État de les donner. Après, ça sera quand même des gens compétents. Ça peut être très bien votre professeur, par exemple.
Merci, en tout cas, Marthe Helena. Je rappelle que vous serez au mois d'avril prochain en voyage scolaire pour visiter le camp d'Auschwitz en Pologne.
C'est bien.
On va faire une pause.
Cali, Chuba, Chuba. There's a crazy little place.
Suite de nos débats pour la présidentielle avec les lycéens de Prépa Sciences Po de Victor Duruy, aujourd'hui face à Christian Delfos, coordinateur dans les Landes du parti Reconquête, interrogé par Emma Auguin et Achille Arménio sur le thème de l'immigration. Et pour débuter sur la théorie du grand remplacement, cher à Éric Zemmour, précision, cet enregistrement a été réalisé quelques heures avant l'émission La France dans les yeux sur BFM TV, dans laquelle le candidat a affirmé, je cite, « vouloir construire des murs à toutes les frontières des pays européens ». Fin de citation, sujet qui ne sera donc pas de ce fait abordé ici.
Alors c'est sûr que nous sommes dans les Landes, encore un département qui, je dirais en période hivernale, ne souffre pas encore trop de ce grand remplacement. L'été, on a quand même quelques petits soucis.
Des vrais problèmes.
Par exemple, sur le bord des plages, je l'ai constaté de mes propres yeux en plus. Hein.
Oui, mais en généralité, quelqu'un...
Ça s'appelle les touristes, M. Delfos.
Oui, du tourisme. Les gens qui viennent agresser les jeunes femmes parce qu'elles sont dans une tenue assez légère.
Ça va pas leur plaire. Il n'y a que des immigrés.
Je ne crois pas que ça soit la question première. La vocation première, c'était le grand remplacement.
Oui.
Je suis chrétien. La France est chrétienne. C'est ses origines, origines de Clovis. Donc à partir de ce moment-là, l'évolution, c'est bien, mais l'évolution, je crois qu'il vaut mieux qu'elle aille dans le sens positif que dans le sens négatif. Si je prends les pays, l'Afghanistan, pour parler que de celui-là, ou si je prends les pays, bien des pays d'Afrique du Nord, on ne peut pas dire que l'évolution soit dans le bon sens.
On n'est pas ici. Moi, je vous parle vraiment.
On va dans cette orientation-là. Oui. On est français avec nos origines. Et moi, je veux que ma France reste avec...
On est France plurielle. Ça, vous pouvez l'admettre aussi. La France est constituée de diverses origines. Il y a eu des migrations, des vagues migratoires européennes, des Italiens, des Espagnols.
Des Polonais qui sont venus en France. Il y a eu des footballeurs dont le père était italien et qui se sont appelés Michel. Il y a eu comme ça...
Et d'autres qui sont appelés Zidane aussi.
Et d'autres qui se sont appelés Zidane, mais ils se sont assimilés. Ils ont accepté et dans leur vie personnelle, privée, ils vivaient comme ils avaient envie de vivre. Si Zidane, il voulait continuer à vivre sa religion d'origine, il la vivait chez lui ou dans sa famille. Mais à l'extérieur, il vivait comme un Français, j'estime, doit vivre.
Et c'est quoi un Français, un vrai Français?
Comme les origines, nos origines. Comment vous vivez, vous?
Je vis avec tous les facteurs de socialisation qui m'ont construit, ma famille qui m'ont construit, mes amis... Mes professeurs, etc. Je vis comme je vis.
Moi aussi.
Et donc, il n'y a pas de manière à vivre.
On ne doit pas dicter
la vie de quelqu'un.
Mais non, mais simplement que les autres n'ont pas à m'imposer quelque chose.
Mais personne ne vous impose rien.
Par exemple, si.
Quand est-ce qu'on vous impose?
Ma dernière entreprise, c'était dans le bâtiment. Dans le bâtiment, je n'avais pas de gêne à embaucher qui que ce soit. On venait avec un CV. Je regardais, c'était le CV qui m'était le plus important. Qui s'appelle Mohamed ou Gérard. C'était le CV qui m'intéressait. Sauf que, quand on travaillait, Ramadan ou pas Ramadan, les horaires, c'était les horaires, et on devait se respecter ces horaires-là. Point barre. quand je vais dans un supermarché ou que je vois des femmes voilées, avec bien souvent un voile même très important, non, j'en veux pas. Je ne veux absolument pas. Voilà.
Et qu'est-ce que vous proposez ?
Bah, de vivre comme toutes les autres femmes ou jeunes femmes, c'est-à-dire comme vous, comme moi.
Donc s'assimiler, c'est renier qui on est ?
Non, s'assimiler, c'est pas s'assimiler pour soi-même. On s'assimile dans le pays où on va.
On a l'impression qu'il faut remplir des cases pour absolument être considéré comme français. À partir de quel seuil,
exactement.
À partir de quel pourcentage on est considéré comme français ?
C'est
moi, c'est ce que j'aimerais
français,
comprendre.
En fait, finalement. C'est quoi le modèle du bon français ?
Le français, c'est celui qui accepte et qui prend pour lui l'histoire française, voilà, dans sa globalité, et qui vivra dans cette façon-là. Si des étrangers viennent en France, ne veulent pas se faire baptiser, c'est leur problème, mais ils doivent accepter les origines de la France. Et si on ne veut pas accepter les origines de la France, et si on veut mettre en avant ses propres origines, là, on n'est pas français.
Après, vous savez que les infrastructures évoluent, la population évolue, nous changeons constamment. Le monde n'est pas figé.
Bien sûr, le monde n'a jamais été figé.
Le monde fonctionnait ainsi, si vous voyez.
Oui, mais
vous voyagez,
si je reviens,
gens se mélangent.
On est d'accord.
Non,
mais
juste le seul problème, c'est que le mélange qui apparaît aujourd'hui n'est pas forcément bon pour les Français et pour la France.
Le paradoxe, c'est juste que la France est un mélange, en fait. Chaque pays est un mélange.
Oui,
on n'a pas d'identité française propre.
Mais bien sûr, certainement que moi, dans mes origines, il doit y avoir, si je remonte, je suis remonté jusqu'en 1789, mais certainement, et avec toutes les invasions qu'il y a pu y avoir dans notre pays, la France, c'est un pays qui s'est forgé. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, une population étrangère viendrait nous imposer une autre façon de voir et nous changerait le cap de l'évolution française.
Mais qu'est-ce que vous voudriez ? C'est quoi ? C'est retour béret-baguette, balmusette ?
Non. Moi, je veux dans mon pays ne pas entendre parler, quand je vais sur la place de Montauban, entendre parler l'arabe. Voilà, ça me gêne. Ça me gêne quand je vois des hommes habillés en djellaba, quand je vois des femmes voilées. Tout ça, ça me gêne. Quand je vois des enfants issus qui sont nés malgré tout en France, hein, et qui agressent les professeurs, certains professeurs.
Les enfants blancs, violents.
Pourquoi on parle jamais des enfants qui agressent pas ?
Pourquoi
on va pas faire de l'angélisme, hein, on est bien d'accord.
Oui, non.
Maintenant, pourquoi on parle pas
des
enfants qui agressent pas, et en l'occurrence, c'est un euphémisme pour dire les enfants qui réussissent.
Oui, mais ceux-là, ils s'assimilent. Moi, je vous invite vraiment à aller passer une semaine. Autant de temps que vous allez passer dans un pays, quelque chose qui marque l'histoire, d'aller passer autant de temps dans le 18e ou dans le 9, dans le 93.
Vous pouvez discuter avec quelqu'un, comprendre.
Ah non, là, vous ne discutez pas avec ces gens-là.
Avec ces gens.
La population qui est dans le 18e.
Et le droit du sol.
Le droit du sol, je ne veux plus, je suis contre.
Vous êtes sur le territoire français, vous êtes français. Ça, c'est par définition.
Oui, mais c'est trop facile de dire le droit du sol. Les parents, ils arrivent, ils sont étrangers, leur enfant né en France, ils sont français. Si on prend la pièce d'identité des parents, et puis si on prend, voilà, ils auront la nationalité de leurs parents. Point à la ligne.
On va balayer plus large. Emma Auguin et Achille Arménion autour de l'écologie. Qui veut enchaîner ?
Je m'y lance. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le dérèglement climatique s'accélère, surtout avec les récents rapports du GIEC. Et conséquemment, il y a un grand nombre de réfugiés climatiques qui arrivent et qui vont arriver des quatre coins du globe. Quelle sera la politique d'accueil ?
C'est un débat qu'il faudra à un moment donné qu'il soit mis sur la table. Pour l'instant, c'est que des choses qu'on avance, parce que le climat, c'est vrai que le climat évolue. Est-ce que c'est la faute de l'homme ? Est-ce que c'est la faute simplement de l'évolution naturelle de la Terre ?
C'est naturel, les gaz à effet de serre ?
Attendez, je ne vais pas dire les gaz à effet de serre sont problématiques ou les gaz à effet de serre ne sont pas problématiques. Je dis simplement l'évolution naturelle de la Terre ou l'évolution due à l'accroissement de la population. Bon, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait réduire la population. Plus la population humaine augmentera, plus le dégagement de CO2 aussi augmentera de façon plus importante, parce qu'on aura d'autres véhicules ou
Après, on est d'accord que ce sont les pays qui n'ont pas forcément une croissance démographique importante qui polluent plus. C'est-à-dire que tous les pays...
J'ai pas dit ça non plus.
Non, oui, parce que les pays qui vont subir les conséquences, ce ne sont pas eux qui produisent.
Ce sont les pays les plus pauvres qui, justement, subissent les conséquences des pays riches qui sont industrialisés depuis déjà un siècle.
Mais quand on regarde aujourd'hui, on ne va pas dire que la France... est le pays qui pollue le plus.
Elle en fait partie.
Mais quand on regarde de façon... C'est pas forcément une évidence, mais les pays qui polluent le plus sont quand même l'Inde, la Chine, les États-Unis.
Si on regarde dans une échelle beaucoup plus large, on remarque que finalement, c'est les pays développés comme la France, comme le Royaume-Uni, qui ont pollué le plus depuis l'ère industrielle.
D'accord. Alors, c'est la France qui est responsable de toutes les de cette modification climatique qu'il pourrait y avoir. Même si la France, allez, admettons, et je ne parle que pour moi-même, l'orientation que nous prenons aujourd'hui concernant l'écologie n'est pas la bonne. Je ne vois pas comment, avec des panneaux solaires, avec des éoliennes, on va réduire les gaz à effet de serre.
Mais la question n'était pas ça à l'origine, c'était comment traiter les réfugiés
climatiques. J'ai répondu à ça. Je veux dire, moi, c'est, encore une fois, je ne suis pas compétent pour pouvoir répondre à ce genre de choses. Vous savez, quand on veut être président de la République, comme Éric Zemmour, que je soutiens, on choisit une orientation. Et cette orientation, on veut voir où elle va aller. Ce n'est pas à Éric Zemmour à dire, je vais prendre un vélo, je vais prendre une voiture, ou je vais prendre pour y aller. Il dit, moi, je veux atteindre ça.
Mais à vous entendre, en fait, et à regarder le programme d'Éric Zemmour, on se rend compte que, si ce n'est son envie... d'arrêter les éoliennes et de poursuivre le nucléaire. Qu'est-ce qu'il y a en fait ? Est-ce que vous êtes climato-sceptique comme Trump ? Est-ce que vous pensez que le climat doit arriver en seconde position, derrière peut-être l'immigration ? Sauf que vous oubliez d'ailleurs que si ce climat est négligé, ce ne sera pas tant des questions d'environnement qui vont se présenter à nous, mais de vie, de mode de vie, d'agriculture et également d'immigration. Parce que ce qu'on imagine là, enfin ce qui va arriver très prochainement et qui commence déjà à arriver, c'est que ce sont des millions de personnes qui pourront changer de pays parce que leur pays ne sera plus viable, parce que ce sera des conditions de vie extrêmes. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt à accueillir cela ? Vous qui, justement, êtes contre cette immigration, vous ne pensez pas que finalement, en ne traitant pas les sujets concernant le climat, ce n'est pas vous mettre une épine dans le pied finalement ?
Il faut reprendre les choses un peu à la base. Si on veut réduire déjà le CO2, eh bien, on enlève les éoliennes, on enlève les panneaux solaires. Le panneau solaire, c'est un amortissement. On met un panneau solaire. En combien de temps ce panneau solaire va amortir le CO2 qui a été émis pour construire ce panneau solaire ?
Dites-le nous.
Une dizaine d'années, à 20 ans.
Et vous avez remarqué que pendant quand il y a eu un confinement, quand il y a tous les avions qui sont arrêtés, toutes les voitures qui se sont arrêtées, la pollution atmosphérique en Europe, à Turin, à Paris, etc.
Bah bien sûr.
Elle était bien meilleure si on diminue le transport.
Mais bien sûr. Moi, je vous invite. Vous allez à Auschwitz en vélo. C'est plus économique.
Le train est beaucoup moins.
Le train est produit par l'électricité. Si on veut que l'électricité ne soit pas produite par quelque chose qui émet du CO2, on va faire des centrales nucléaires. C'est le meilleur rapport. C'est peut-être pas forcément la panacée, mais c'est ce qui est le meilleur.
Oui, sauf que le nucléaire est une solution, peut-être certes à court terme, mais à long terme, ce sont des déchets radioactifs qui s'empilent. Qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets ?
Oui, mais pour l'instant, en France, ils sont très bien gérés.
Oui, on les enterre, d'accord.
Mais justement, les panneaux solaires, les éoliennes, à qui elles rapportent les éoliennes ? À qui ça rapporte les éoliennes ? Sans parler des paysages, parce qu'on parle d'écologie, mais l'écologie, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez vaste. Éric Zemmour donne une orientation pour une diminution du CO2 et il est certain que de toute façon, il faudra aller plus loin que d'avoir simplement des centrales nucléaires. Il est certain que si je serais élu député, je me battrais quand même pour que les réglementations techniques soient un petit peu plus surveillées et appliquées.
Parmi les derniers sujets évoqués lors de cet entretien, le volet international, priorité donnée à l'actualité par Soizic Braconnier avec la crise ukrainienne. On retrouve Christian Delfos.
Je serai à la place de M. Poutine, je ferai exactement pareil que lui. J'estime que les pays limitrophes à la Russie, les Américains n'ont pas à venir y mettre des forces, même si c'est au travers de l'OTAN, à y mettre des forces. C'est un sentiment qui m'est personnel. Encore une fois, je n'engage ni Reconquête, ni qui que ce soit là-dessus. Mais je pense que Il faut que les Européens, et quand on rentre dans l'Europe, qu'on comprenne quand même que de vouloir mettre une tension militaire près d'un autre pays, il est normal qu'à un moment donné, on ait aussi des tensions militaires qui, par cet autre pays, soient répondues.
Je vous interromps, M. Delfosse, il y a quelques années, on a eu des avions russes au large de la Bretagne, même un petit peu plus au sud.
Oui, on est sur la frontière pour l'instant. Oui, c'est pas parce que les Russes auraient eu
des provocations
qu'il faut dire c'est bien. Je dis simplement que si on vient mettre des armes près d'un pays, il est normal que l'autre réponde en mettant des armes ou une armée près de sa frontière aussi. Si on veut désescalader les choses, sachons les prendre avec intelligence. Je réponds qu'en français moyen. J'ai trouvé que l'attitude de notre président, au travers de cette grande table qu'il avait face à Monsieur Poutine, était d'une arrogance. C'était un coq qui était là, qui était en train de faire voir... Je suis le plus fort.
L'attitude, c'est une photo avec une table sortie d'un autre temps.
Mais on verra ce que ça donne après le résultat.
Alors, par rapport à cette entrevue, justement, Poutine, il a dit qu'il voulait trouver des compromis des deux côtés.
C'est normal. Je suis contre les guerres. Je suis plutôt un pacifiste. Mais je suis aussi pour défendre nos frontières. Donc, trouvons des compromis.
Vous y croyez vraiment, Vladimir Poutine qui a écrasé Nicolas Sarkozy il y a quelques années lors d'une réunion, qui écrase toute forme d'opposition dans son pays. Vous croyez vraiment qu'il tient compte de l'avis de Emmanuel Macron ou de n'importe qui d'autre, hein, d'ailleurs.
C'est des joueurs de poker. Voilà, c'est celui qui aura la meilleure main, qui fera croire que dans sa main, c'est la meilleure. Il faut être toujours vigilant, il faut accepter les propositions des uns, il faut comprendre aussi les propositions des autres, essayer de trouver le meilleur compromis, ça n'empêche pas la vigilance. Voilà.
Du coup, à la fin de l'entrevue, il a donc annoncé ça, mais pourtant, le renseignement américain nous informe que la Russie a 70% du dispositif nécessaire pour une offensive contre l'Ukraine.
C'est les Américains qui le disent.
Est-ce que vous pensez que Poutine sera capable d'amorcer une guerre contre l'OTAN ?
Non, il fait peur.
On va clôturer. Alors, on n'a pas parlé volontairement parce que le sujet est actuel et qu'on entend beaucoup parler et la question est certes primordiale, celle du pouvoir d'achat. On va quand même parler de chiffres. Ma chère Elsa Nuel qui nous a rejoint pour clôturer cet entretien.
Donc, le programme économique du coup de M. Zemmour et du Parti Reconquête est très libéral, notamment en voulant baisser les impôts et en reprochant à l'État, par exemple, de faire beaucoup d'assistanat en donnant beaucoup d'allocations familiales, etc. Mais est-ce que l'État, du coup, a encore une utilité d'ordre économique ?
Diminuer, recadrer, mais simplement, l'assistanat, et le mot est très faible, mal choisi. Vous savez, quand un individu il se retrouve au RSA, je ne pense pas qu'il est toujours cherché. Il y en a qui vont se complaire dans ce système-là parce que ça leur apporte une sécurité globale. Puis à côté, ils vont travailler au black. C'est ça qu'il faut arrêter parce que ces gens-là perturbent le système économique et tout le soutien que l'État peut leur apporter ne correspond plus. C'est un coût pour l'État, c'est un coût pour la société. Le RSA, il le faut. Il le faut parce qu'il y a des familles qui vont se retrouver du jour au lendemain. Je pense à des petits chefs d'entreprise qui ont tout perdu avec la crise qu'on vient de passer et qui ont besoin du RSA pour survivre.
Vous savez pas comment la différence du coup, entre ceux qui touchent le RSA et qui, d'après vous dire, du coup, travailleraient aussi à côté au Black et ceux qui auraient réellement besoin du RSA?
Il va y avoir un système d'enquête qui va être mis en place. Je ne sais pas s'ils le nomment comme ça. Mais il faudra faire quelque chose. Parce que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui ont besoin de ça et puis d'autres qui en profitent. Voilà. Et cette aide-là pourrait être même plus importante si tout était utilisé à bon escient. Et il y a des gens qui en profitent. Des Français qui en profitent. J'ai pas peur de le dire. En résumé.
Il y a aussi un projet de donner 10 000 euros par enfant né en campagne. Mmh. Mais qu'est-ce qui est considéré comme la campagne ?
En milieu rural, c'est la définition, ça sera la... Alors, de toute façon, il y aura toujours forcément qu'à un moment donné où cette disposition sera mise en place, des barrières qui seront bien, bien précises. Aujourd'hui, c'est les petites communes, je crois me souvenir, mais bon là, ça n'engage encore une fois que moi, je crois que c'était des communes de 1000 ou 2000 habitants. Le but, c'est de faire revivre les campagnes. C'est de redonner la possibilité aux jeunes de pouvoir vivre, de vivre à la campagne et de vivre du produit que la ruralité pourrait leur apporter. Et c'est pas toujours évident, parce que les revenus en milieu rural sont quand même, et quand on est agriculteur entre autres, c'est très faible. Et c'est pour redynamiser un petit peu ce secteur-là. Et ça fait depuis des années que c'est comme ça. Les jeunes partent à la ville pour essayer de mieux gagner, parce que quand ils ont vu leurs parents souffrir, et il y a un très beau film qui avait été fait avec Canet, c'est une vie qui est très difficile. Et c'est normal qu'on l'aide.
Oui, mais c'est lancer 10 000 euros, là, comme ça. C'est,
oui, ça serait par exemple pour les cadeaux. Exclusivement les enfants d'agriculteurs ou de personnes qui sont déjà implantées à la campagne depuis longtemps ou
ça peut être... Ah, bah, le temps, oui, c'est vrai, ça fait partie des points qui seront abordés. Je crois que le coût de ces 10 000 euros serait d'à peu près de 2 milliards. Les coûts de Valérie Pécresse pour reprendre quelqu'un qui serait aussi de droite, serait, sur la natalité, serait à peu près de 5 milliards. Mais là encore, c'est que des chiffres que j'ai comme ça en tête, mais qui ne sont peut-être pas forcément très justes.
Je crois qu'on arrive à la fin. J'avais prévu un dernier dos. J'avais je vais essayer de résumer. J'avais juste une petite question. C'est une question. Lors de ses vœux à la presse, Éric Zemmour a déclaré « Le peuple a raison d'en vouloir aux journalistes ». Je vous pose la question, Christian Delfosse, ça vous fait sourire moins un peu moins. Est-ce que c'est responsable de nos jours de tenir des propos pareils? Quand on a vu des manifestations, va y avoir encore des points de convergence là avec les convois de la liberté. Quand on voit des journalistes qui sont trois pour 1000 personnes, qu'il y a des effets de groupe, vous savez ce que c'est, qu'il y a une violence dans l'air, est-ce que Éric Zemmour n'est pas clairement un pyromane avec des propos pareils?
Alors, ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre, moi, dans cette pandémie qui vient d'arriver, quand j'étais jeune, j'avais plaisir à rencontrer des journalistes qui étaient vraiment dans le détail, qui apprenaient et qui étaient dans l'information de façon générale. Aujourd'hui, la pandémie nous a révélé quand même un consensus. Je n'ai pas rencontré très peu de journalistes qui ont, dès le départ, essayé de faire de l'investigation.
Pas Pascal Pro fait de l'investigation ?
Attends,
je m'interroge. Non.
Les journalistes, pour une bonne partie, ce sont quand même des professionnels. Vous avez parlé de Pascal Pro. Je ne pense pas que ça soit un journaliste d'investigation. Je ne sais pas si dans sa carrière, il ait fait de l'investigation.
En football, oui.
Oui. Voilà, moi j'aurais aimé, de la part de certains journalistes...
Et quand Éric Zemmour pointe un fusil sur des journalistes...
Oui, mais alors, non, vous savez on a retrouvé... Je reconnais, et je crois que même lui, il l'a reconnu, que c'était maladroit. Mais moi, pour avoir croisé Éric Zemmour...
Maladroitement calculé.
Non. Mais j'ai vu d'autres élections. Je n'ai pas vu un président se pencher sur un handicapé et la prendre dans ses bras. Alors, on va reprocher à Éric Zemmour de prendre une mitraillette puis de la pointer en rigolant sur un journaliste, ce qui était quand même vraiment de l'humour. Mais on n'a pas commenté et on n'a pas fait voir cette image d'Éric Zemmour.
Ça aurait été drôle sur un trafiquant d'armes, pas sur un journaliste.
Je n'ai pas vu l'image d'Éric Zemmour prendre et commenter par les journalistes d'Éric Zemmour prendre cette femme handicapée quand il a été à Cannes, la prendre dans ses bras et l'embrasser. Je veux dire que j'ai encore jamais vu un candidat à l'élection présidentielle faire avoir ce geste-là. Ni même, je l'ai vu parce que j'étais à Biarritz, il lui a été annoncé, la femme du chauffeur de bus qui avait été agressé, qui était mort, était présente dans la salle. Il est venu, il a été la voir, et sans que ça soit prévu, il est venu la saluer et avoir un mot et un geste, je dirais, tendre.
Christian Delfosse, il y a encore 2 mois de campagne, donc d'autres images d'Éric Zemmour qu'on aura l'occasion de voir à l'écran. Un petit mot peut-être, juste avant de se quitter, pour les personnes qui vous ont accompagné. Alors, voilà, bon, c'est un débat avec une seule personne.
J'aurais aimé que Romane soit plus présente. C'est une jeune femme, c'était défendre un petit peu ce côté qu'on a donné à Éric Zemmour, cette image de misogyne, cette image de...
Elle a des compétences aussi, rassurez-moi.
Mais bien sûr, j'aurais aimé qu'elle développe.
Et Romane est étudiante.
Voilà. Et donc je voulais avoir dans le bureau des jeunes, des femmes. J'en ai pas assez. Je n'ai que 2 femmes dans le bureau.
Mais là, la campagne est encore longue. Il y aura les législatives après. On sera même amené de se rencontrer. Attends, il y avait d'autres femmes qui étaient avec nous. 5 sur les 6 à vous avoir interrogé.
Oui. Mais là, la parité.
Brièvement, j'ai
à chaud comme ça. J'ai absolument apprécié. Peut-être que si on le refaisait, je viendrais avec des réponses non pas différentes, mais peut-être plus élaborées. C'est ma première rencontre avec des journalistes. J'ai apprécié. Les questions étaient quand même très précises. Moi, j'admire. Enfin, je trouve que ce que vous avez fait tous, c'était un beau travail. Je pense que l'avenir a besoin de choses comme ça. C'est que la jeunesse a besoin de faire voir qu'elle existe un peu plus que ce qui est aujourd'hui. Et voilà. Bon, félicitations.